France Info.
L'émission politique de France Info, c'est maintenant, comme tous les matins, jusqu'à 9h. Bonjour Jean-Michel Apathy.
Bonjour Fabienne.
Bonjour Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Notre invité ce matin est député-maire. Deux mots, soutien de François Fillon.
Bonjour Jean-François Copé.
Bonjour.
Un policier a été assassiné hier soir sur les Champs-Élysées à Paris. Un acte de terrorisme revendiqué très rapidement par l'État islamique. Nous écoutons une déclaration qu'a faite hier soir le président de la République, François Hollande.
Nous sommes convaincus que les pistes qui peuvent conduire à l'enquête et qui devront révéler toute la vérité sont d'ordre terroriste.
Quelle est votre réaction face à cet événement, Jean-François Copé ?
D'abord, je voudrais, comme toutes les personnalités qui l'ont fait avant moi avec leurs mots, dire que j'ai été extrêmement ému par cet événement épouvantable, un de plus, que je pense bien sûr au policier qui est décédé, aux deux autres policiers qui sont blessés, à leur famille, et au-delà de ça, à l'ensemble de celles et ceux qui, tous les jours, se battent pour la sécurité des Français. Les policiers, bien sûr, les gendarmes, mais aussi les magistrats, les surveillants pénitentiaires, nos militaires. Et je voudrais rappeler que tout ce que nous vivons depuis des années maintenant, chacun l'a compris, ne va pas s'arrêter. Nous sommes dans une situation de vulnérabilité, et pour moi, c'est un changement complet de politique qu'il faut mener en matière de sécurité.
Nous sommes dans une situation de vulnérabilité parce que le terrorisme, c'est une forme de lâcheté suprême. C'est un homme seul qui décide du moment et des modalités de l'action qu'il mène, une action meurtrière. C'est très difficile de se prémunir,
Sans doute. Sans doute, mais je raisonnerai un peu différemment. La question n'est pas de savoir quel est le comportement que nous avons de la part de l'ennemi qui est en face. Est-ce que c'est de la lâcheté? Est-ce que c'est pas de la lâcheté? Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que c'est un ennemi. C'est un ennemi dont la forme est totalement différente de celle que pouvaient recouvrer les ennemis des guerres classiques. Donc on sait qu'on doit adapter notre appareil de défense et de sécurité à cette nouvelle menace. Et c'est pour ça que je plaide avec d'autres pour l'idée que, en fait, c'est pas simplement telle ou telle mesure qui doit être prise. C'est un tournant sécuritaire et qu'il faut l'assumer comme tel.
Alors on va reparler sur le fond, effectivement, des mesures que l'on pourrait prendre. Gilles Bornstein.
Est-ce que vous voulez dire qu'avec d'autres mesures, l'événement d'hier aurait pu être évité ?
On peut jamais dire ça, même dans une période de campagne électorale où la parole est parfois un peu plus rapide que la pensée, ça n'a pas de sens. On ne peut jamais prétendre être au risque zéro. En revanche, je pense que il nous faut considérer que la lutte contre le terrorisme exige de réorganiser complètement notre appareil de sécurité et de le faire de manière très opérationnelle, très concrète. C'est-à-dire, bien sûr, une augmentation massive des effectifs de police, de gendarmerie, de magistrats, de gardiens de prison. C'est, d'autre part, l'idée de créer, ce que moi je souhaite, et je sais que François Fillon et d'autres partagent le concept, une chaîne pénale totalement dédiée à l'antiterrorisme. Qu'il y ait des marques très vidiques à tous les étages. Depuis le parquet, qui doit être un parquet exclusivement dédié à l'antiterrorisme,
c'est ce qui se passe aujourd'hui,
jusqu'au juge des libertés. Non.
Il y a des juges spécialisés dans les affaires de terrorisme ne traitent que de cela, qui ne sont pas distraits dans leurs tâches professionnelles par d'autres dossiers.
Vous avez raison. Sauf que nous savons que beaucoup de ces questions, par exemple au niveau du parquet, sont traitées avec, dans une même journée, le traitement d'un braquage, le traitement de telle autre affaire.
Mais là, en l'espèce, monsieur Copé, pardonnez-moi, quand on a une personne, même entendue par la police, même en garde à vue, dont on estime qu'il n'y a pas de dangerosité et que donc on relâche, est-ce que le problème, il n'est pas uniquement là ? Est-ce qu'il est uniquement là ? Est-ce qu'il est vraiment
en amont et en aval ? Non, il n'est pas uniquement là. C'est un ensemble. C'est-à-dire qu'au même titre qu'il faut créer cette chaîne antiterroriste dédiée depuis le parquet national antiterroriste à créer jusqu'au juge des libertés, de la même manière, il faut revoir toute notre politique de renseignement qui, pour diverses raisons, n'est pas encore totalement adaptée à cette menace.
Mais vous pensez qu'on aurait gardé ce monsieur ? Est-ce qu'on n'aurait pas relâché ce monsieur même avec une chaîne différente, avec une chaîne
Attendez, on peut pas refaire l'histoire, mais en revanche, si nous mettons en place un service un peu un NSA à la française, c'est-à-dire un service qui vient servir de plateforme pour renseigner la totalité des équipes qui travaillent au renseignement extérieur et intérieur, qu'on le renforce par une présence à nouveau réorganisée sur le terrain, qui manque beaucoup depuis la suppression du travail qui était fait par les RG sur le terrain. Et que nous ajoutons à cela, troisième élément, une nouvelle politique pénale qui soit à la fois, qui inclut à la fois un dispositif de rétention administratif qui peut aller jusqu'en 150 jours sous le contrôle du juge. Hein. Et c'est très important parce que, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure sur la garde à vue, celui qu'on libère ou qu'on libère pas, l'idée du délai de rétention de 150 jours qui n'existe pas en France aujourd'hui, c'est ce qui permet, pendant tout ce temps, d'évaluer la menace et bien entendu de la compléter par des dispositions qui peuvent l'amener ensuite à aller en détention.
On va écouter le procureur de la République, François Molins, qui parle de l'auteur de l'attentat.
L'identité de l'attaquant est connue, a été vérifiée. Je ne vous la donnerai pas parce que des investigations sont d'ores et déjà en cours avec des perquisitions pour engager des investigations et notamment s'assurer du point de savoir s'il a bénéficié ou pas de complicité.
Vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous renseigner depuis hier soir, mais il apparaît que l'homme qui est donc l'auteur de cet acte a été entendu par les policiers de Meaux, la ville dont vous êtes le maire, parce que les policiers ont appris qu'il aurait fait des menaces au mois de février, il aurait voulu tuer des policiers. Vous avez des informations
là-dessus ? Non, j'en ai aucune et vous comprenez bien que c'est pas à moi de faire ce type de commentaire. L'enquête est en cours, il faut naturellement laisser les uns et les autres travailler dans leurs différentes missions, mais il est exact que ce sont les équipes de Meaux qui sont au travail. Oui.
Et donc, évidemment, il y aura sans doute dans les jours qui viennent, et ceci enjambera le premier tour de l'élection présidentielle, peut-être des précisions sur la manière dont les policiers ont suivi ce dossier. Est-ce qu'il y a eu ou pas d'interprétation dans des dossiers qui sont toujours très difficiles et très délicats, évidemment.
Mais enfin, vous comprendrez que moi, je ne fasse évidemment aucun commentaire là-dessus. Ce qui, encore une fois, pour moi, est fondamental, puisque nous sommes aussi dans cette période de campagne présidentielle où les Français vont se déterminer dimanche, c'est que chacun ait bien à l'esprit que la seule politique possible, c'est celle d'assumer un virage sécuritaire et un tournant sécuritaire et que de mon point de vue, seul François Fillon et la droite française, nous sommes nombreux autour de lui à travailler depuis des années sur ces questions, pourra apporter vraiment une réponse forte que je ne trouve chez aucun autre candidat.
Et on y vient dans une minute tout pile, il est 8h40, David Dauba pour l'essentiel.
François Hollande, Bernard Cazeneuve, les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense ou encore des Affaires étrangères, ainsi d'ailleurs que les patrons des services de sécurité, de renseignement et de l'armée réunis à l'Élysée depuis ce matin, 8h. Tous participent à un conseil de défense. Il fait suite évidemment à l'attaque perpétrée hier sur les Champs-Élysées. Attaque revendiquée par le groupe État islamique qui a fait un mort et trois blessés. Les victimes sont des policiers et une touriste. Le tireur, lui, a été abattu par les forces de l'ordre. Selon les enquêteurs, l'homme responsable de cette attaque est un Français de 39 ans. Il faisait l'objet d'une enquête antiterroriste. Des perquisitions ont eu lieu à son domicile en Seine-et-Marne. Et puis on apprend également que le ministère de l'Intérieur confirme enquêter sur un homme signalé par la Belgique. Conséquence de tout cela, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon annulent leur déplacement et dernier meeting. Rendez-vous maintenu en revanche pour les autres candidats. Jean-Marc Ayrault confirme la libération ce matin de deux journalistes français. Ils étaient emprisonnés depuis le 11 avril dernier au Venezuela. Ils sont en route pour Paris. Les autorités affirment qu'ils étaient en possession de drogue au moment de leur interpellation.
France Info. Jean-François Copé est avec nous dans l'émission politique ce matin sur France Info. Gilles Bornstein, question.
Vous venez de suggérer un arsenal à la fois juridique, policier, plus important pour lutter contre le terrorisme. Tout ceci figure-t-il suffisamment dans le programme de François Fillon, le candidat que vous défendez?
Ah oui, bien sûr. C'est d'ailleurs certainement celui des candidats qui présente le projet le plus cohérent et le plus global sur ces questions. Parce qu'il y a tout l'autre volet dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui est tout aussi essentiel, et qui a trait au rappel des questions de laïcité. Parce que tout ce terrorisme, il ne faut pas l'oublier, il se fait sous couvert d'un alibi, il n'y a pas d'autre mot, qui est l'alibi religieux. Tout cela n'a, on l'a bien compris, aucun rapport avec la religion. C'est l'utilisation, l'instrumentalisation de la religion pour le faire. Et donc nous, notre combat, il est de rappeler aux uns et aux autres que ça doit aussi passer par une organisation beaucoup plus claire des règles d'exercice du culte musulman, qui est le seul culte qui n'a pas bénéficié de la même manière des dispositions de la loi de 1905, puisque son développement en France était postérieur à la loi de 1905.
Alors tout de même, cet événement pose plusieurs questions. Par exemple, depuis plusieurs jours, Marine Le Pen dit que toutes les personnes qui sont fichées S, on n'est pas certaine d'ailleurs que l'auteur de l'attentat l'ait été, mais il n'y a pas de précision là-dessus. certaines personnes disent oui, il était fiché S, d'autres pas, donc on n'en sait trop rien. Mais Marine Le Pen, elle était notre invitée il y a une semaine, suggérait ceci à propos des fichés S.
Il faut les expulser immédiatement. Nous n'avons aucune raison de conserver sur notre territoire des gens qui représentent un danger potentiel. Que les choses soient très claires. Le lendemain de mon élection, je procéderai l'expulsion des fichiers S étrangers de notre pays. Peut-être et j'engagerai les procédures de déchéance de nationalité pour ceux qui ont la double nationalité.
Et toujours à propos des fichiers S, pour être complet ce matin, Emmanuel Macron était l'invité d'RTL. Et lui, à propos des fichiers S, il a déclaré ceci.
Si vous les mettez tous en prison, d'abord, ça n'est pas conforme au droit, puisque c'est un choix des forces de police qui veulent identifier un individu qu'ils vont suivre pour remonter une filière. Donc, ça n'est pas conforme au droit, ça n'est pas possible pour tout le monde. Et la deuxième chose, c'est que c'est inefficace. Parce que le but, c'est de les suivre, c'est justement de les surveiller, c'est du renseignement.
Plusieurs milliers de personnes sont fichées à ce aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'on en... Comment on gère cette question?
Enfin là, il y a plein de sujets différents qui sont abordés. Il faut les prendre dans l'ordre. Parce que sinon, on est dans la confusion.
Allez-y. Bon,
d'abord, point numéro un. Si on veut une politique pénale et une politique antiterroriste efficace, il faut une politique pénitentiaire efficace. Bon, c'est un des grands rendez-vous manqués du quinquennat de François Hollande. Pas une seule place.
Et du quinquennat précédent.
Oui, enfin...
Ça fait un moment, les places de prison...
Je rappelle que Jacques Chirac avait lancé un grand programme de construction de places de prison. Je rappelle que...
Qui n'a pas abouti.
Ce qui a parfaitement abouti, je suis désolé. C'était dans le cadre d'une loi de programmation judiciaire. Il y a même un ministre qui était dédié à cette question. Il y a eu beaucoup de places de prison construites dans le
problème
quinquennat.
De la surpopulation carcérale est ancien.
Oui, mais attendez.
Personne ne l'a résolu.
Mais comme vous m'avez donné ce point, soyons l'un et l'autre précis. Donc, d'accord. Je vous le dis. Deuxièmement, je m'en souviens, j'étais ministre du budget. Donc, j'étais très au clair sur ces questions. Ensuite, effectivement, c'est un des grands rendez-vous manqués du quinquennat de François Hollande. Puisque, vous vous en souvenez, Madame Taubira était très hostile à la construction de places de prison supplémentaires.
De mon point de vue,
il en faut 20 000. Je pense qu'il n'y a pas, d'autre solution que d'avoir ce premier point.
Ce qui n'est
point.
Pas dans le programme de François Fillon.
Non, François Fillon.
16 000, d'accord. Je savais que c'était moins.
Non. Oui, enfin, très bien.
20 000, d'accord.
Moi, j'ai
on est proche.
20 000. Enfin, écoutez, 16 000, ce sera déjà très bien.
On peut revenir au fichier S, s'il vous plaît.
On va revenir. Place de prison, premier point. Deuxième point.
Je crois que comme il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, il faut vraiment bien dire les choses méthodiquement. Donc le point numéro un, c'est la politique pénitentiaire. Le point numéro deux, en ce qui concerne les fichiers S, il faut revoir ce fichier de fond en comble. Parce que dans ce fichier, vous avez tous les profils possibles. Il faut donc reconcevoir un nouveau fichier dans lequel on identifie clairement avec des sous-catégories de qui on parle. Alors après, les propositions d'expulser du territoire, les fichiers S qui ne sont pas de nationalité française. Oui, très bien. Veiller à ce que ceux qui sont partis en Syrie ne reviennent pas, tout ça, c'est quelque chose qui doit faire partie de l'arsenal, évidemment. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est que si on veut véritablement neutraliser les hommes et les femmes qui aujourd'hui sont identifiés, eh bien c'est un suivi personnel de chaque personnalité, chacun d'entre eux, qui doit nécessiter, je le rappelle,
des moyens considérables.
Ces moyens doivent être dégagés pour le faire.
Un point précis, vous êtes maire de Meaux, est-ce que vous avez connaissance des fichiers S qui vivent chez vous?
Non.
Est-ce que vous souhaiteriez le savoir?
Bien sûr. Vous savez que c'est un des grands sujets de revendication de nombreux maires qui considèrent que, à défaut d'être au fait, nous n'avons pas à être au fait de tous les sujets, il est absolument capital que nous ayons des informations. Deuxième point, puisque nous parlons aussi de ces questions de moyens de sécurité, n'oublions jamais une chose. L'écrasante majorité de ceux qui sont des terroristes ont commencé par être des délinquants. Tous les délinquants ne deviennent pas terroristes, fort heureusement, mais tous ceux qui sont terroristes, à quelques exceptions près, ont d'abord versé dans la délinquance avant d'être radicalisés. Et donc tout ça, ça commence sur le terrain, dans la proximité, dans les quartiers. Et donc la proposition de François Fillon, pour ma part, j'ai totalement soutenu, de décider, s'il est élu, que toutes les communes de plus de 10 000 habitants aient une police municipale armée, ça acte que sur le terrain, nous allons renforcer la présence policière. Il ne faut pas se mentir, s'il n'y a pas de sécurité sur le terrain, les tensions seront toujours plus fortes.
Vous parlez d'un tournant sécuritaire, mais la lutte contre le terrorisme pose un défi à l'état de droit. Est-ce que dans votre esprit, le tournant sécuritaire fait que des mesures administratives doivent être prises sans contrôle du juge, par exemple l'expulsion des fichiers S? Si ça se fait par le contrôle d'un juge, ça prend du temps, c'est une autre démarche. Et du coup, je ne sais pas bien ce que vous mettez dans l'expression qui est forte. Tournant sécuritaire.
Non. Eh bien, pour moi, les choses sont très claires et c'est très bien que vous me posiez la question. Ça me permet de préciser cela. Pour moi, tout cela doit se faire sous le contrôle du juge. Il est hors de question qu'il n'y ait pas en permanence, dans toutes les étapes, le contrôle du juge. et en particulier
même si ça ralentit les procédures
judiciaires, et en particulier du judiciaire. Alors vous me dites ça ralentit les procédures. Ça ralentit les procédures si la justice n'a pas les moyens de travailler. Or le grand problème aujourd'hui, le grand tabou de tout cela, c'est que l'administration, le service public de la justice travaille dans des conditions de précarité dont personne ne veut parler et qui est une réalité. Dans le, je peux vous dire,
si,
je,
en parler,
on en parle un peu quand même.
Le nouveau ministre Roise d'ailleurs en a fait tout un catalogue.
Je me souviens de ce qu'il a dit, mais enfin c'est inimaginable. Il était le ministre de la justice. C'est fou qu'il n'est pas. Oui, enfin, je dis.
Oui, mais pardon. Donc il en a
parlé.
Il
est encore pour quelques semaines, mais on oublie un détail, c'est que quand vous êtes ministre, c'est pas pour constater qu'il y a une précarité, c'est pour apporter le programme de mesures supplémentaires à prendre. Cette question est essentielle. Et donc en réalité, moi je n'imagine pas que le renforcement de cet arsenal sécuritaire puisse se faire autrement que sous le contrôle du juge, mais avec des magistrats dont les moyens seront bien supérieurs, d'où mon idée de chaîne pénale antiterroriste entièrement dédiée.
Pour être tout à fait clair, parce qu'on voit que le débat aujourd'hui se focalise sur ce qu'il faut faire de ces fichiers S. Vous avez bien dit, on ne peut pas mettre en prison tous les fichiers S. Ce sont des éléments importants de les suivre pour le renseignement. Donc vous êtes plutôt d'accord avec Emmanuel Macron qu'avec Marine Le Pen sur les extraits qu'on a entendus.
Non, mais on n'est pas dans un match de pour
savoir. Non, mais on ne peut pas. Vous êtes d'accord que. On ne peut pas mettre en prison ces fichiers S.
Oui, mais ça, d'accord. Oui, je viens de le dire. Mais sauf ne découpons pas les choses. Mon problème aujourd'hui, c'est que le seul qui aujourd'hui présente un programme global qui priorise l'action sécuritaire et la lutte contre le terrorisme, c'est François Fillon. Et j'entends chez Emmanuel Macron quelques réticences par rapport à tout cela. On le voit bien. Moi, ce que je souhaite, c'est que chacun comprenne qu'au-delà même de la gauche ou de la droite, allez, il faut considérer que ce tournant sécuritaire, c'est une priorité absolue. C'est un prérequis. Les Français aujourd'hui, et on le voit bien à travers la réaction de très grande tension dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ils attendent d'être protégés dans un pays qui est devenu vulnérable. J'emploie ces mots à dessein uniquement pour vous dire que la première responsabilité du politique, c'est l'obligation de résultat dans ces domaines. Et donc ça passe par une obligation de moyens. Nous avons pris trop de retard.
Bah, d'accord. Je croyais que vous aviez une question, mais finalement non. Donc comme il est 8h50, c'est David Deba pour l'essentiel.
Un lieu, les Champs-Élysées, une date, 3 jours avant la présidentielle, et une cible. Des policiers, ce sont clairement des symboles qui ont été visés hier soir. Il était 21h quand un homme armé a arrêté sa voiture à la hauteur d'un fourgon de policiers avant d'ouvrir le feu et d'être abattu. Bilan, un fonctionnaire tué et 2 autres blessés. Très rapidement, le groupe État islamique a revendiqué cette attaque. Pour les enquêteurs, l'auteur des faits est un Français de 39 ans, suivi par la DGSI. Mais il pourrait avoir eu un complice. Le ministère de l'Intérieur enquête sur un homme signalé par les services belges. Un avis de recherche a d'ailleurs été lancé. Depuis 8h, un conseil de défense se tient à l'Elysée autour du chef de l'État, François Hollande, qui annonce qu'un hommage national sera rendu à la victime. Dans l'actualité de ce vendredi également du foot, Lyon qualifié pour les demi-finales de l'Europa League en éliminant au tir au but hier soir le Beşiktaş d'Istanbul. L'OL qui retrouve donc dans le dernier carré Manchester United, l'Ajax d'Amsterdam et le Celta Vigo. Tirage au sort à la mi-journée.
Jean-François Copé est avec nous ce matin jusqu'à 9h. Question Jean-Michel Apathy.
Il y a peut-être une contradiction dans votre discours, Jean-François Copé. Vous soutenez François Fillon, vous l'avez rappelé. François Fillon veut supprimer en nombre très important des fonctionnaires. Et Benoît Hamon, hier soir, en conclusion du débat qui avait lieu sur France 2, a pointé cette contradiction. On l'écoute.
Je suis un homme de gauche et je considère que dans une crise comme celle-là, il faut réarmer l'État plutôt que de diminuer les services publics.
Ne pas diminuer les services publics. Alors concrètement, combien de policiers faudrait-il embaucher ? Vous parlez d'embauche massive. Sans doute, il faut embaucher aussi des militaires qui ont une pression très Absolument. Particulière dans le dispositif de sécurité et donc des magistrats. Donc ça contredit un peu la volonté de François Fillon de diminuer de manière très significative les services publics.
Et des gardiens de prison.
Et les gardiens de prison aussi, bien sûr.
J'ai évoqué tous ces points. Moi, je pense qu'en réalité, c'est un rendez-vous de vérité avec les Français. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs dans notre pays qui ne nécessitent plus autant d'effectifs. Et on le sait bien. Il y a une réorganisation des missions. Ce que d'ailleurs, François Fillon a dit à plusieurs reprises. Vous avez aujourd'hui la lourdeur des tâches administratives. Vous avez aussi le fait que les métiers, contrairement à ce qu'on veut bien dire parfois, ne sont pas les mêmes. Ça n'est pas la même chose dans l'administration de travailler au ministère des Finances, au ministère de l'Intérieur, au ministère de
Mais le mot
nationale.
D'ordre supprimer 500 000 fonctionnaires en 5 ans n'est-il pas contradictoire avec la nécessité que vous évoquez vous-même, je vous cite, d'embaucher massivement, massivement,
bien sûr.
Les mots ont un sens.
Mais bien sûr, mais
c'est encore pas contradictoire
mais... c'est contradictoire si on parlait des mêmes échelles, mais vous voyez bien qu'on ne parle pas de la même échelle. D'un côté,
je n'ai pas compris.
Comment ?
C'est contradictoire donc.
Non.
Je comprends pas ce que vous voulez dire.
Attendez, quand on dit qu'on supprime des postes, ça ne signifie pas qu'on n'en augmente pas dans certains domaines. Il y a un solde net. Nous savons qu'il y a des secteurs dans lesquels le problème peut être résolu en réduisant les effectifs. Alors, le fait de passer à 39 heures, le fait de réorganiser les missions, fait que l'on crée de facto des postes supplémentaires.
500 000, ça vous paraît envisageable?
Ah, mais ça, c'est une autre question. Enfin, je peux répondre à cette question. C'est une autre.
Ce que
je veux dire simplement, c'est que ça doit être, d'ailleurs, François Fillon l'a dit aussi, net d'un certain nombre de créations de postes. Voilà.
Prenons le problème autrement. Est-ce que ce qui s'est passé hier, mais donc l'environnement dans lequel nous vivons, la pression du terrorisme, le danger que ça représente, doit conduire François Fillon, vous qui le soutenez, à réévaluer les nécessités d'embauche dans tous les secteurs où l'autorité de l'État s'exprime?
J'ai envie de vous dire, c'est François Fillon le candidat. Moi, je ne suis pas le candidat. En l'occurrence, lui a été très clair sur ces sujets en disant qu'il considérait que l'objectif de baisse des effectifs globaux devait être maintenu et que pour autant, il y avait certains domaines, ce qui est d'ailleurs logique, dans lesquels il devait y avoir des créations de postes. Et c'est dans le régalien. Et c'est là-dessus que doivent se faire les créations de postes.
On doit en supprimer beaucoup et on doit en embaucher massivement.
Oui, mais enfin, vous savez, c'est toujours comme ça que ça marche. Enfin, je veux dire, je pense que même à Radio France, on fonctionne comme ça. Il y a des fonctions qu'on supprime, des postes qu'on crée. Je crois que c'est la logique même. Après, c'est aux dirigeants politiques d'assumer s'ils pensent qu'il faut augmenter ou diminuer les effectifs globaux. Je pense qu'il faut les diminuer, mais que sur le régalien, nous avons pris du retard, il faut réinvestir.
Comme vous dites, c'est la logique, mais je ne sais pas si c'est très clair. Mais nous aurons l'occasion sans doute
Attendez, je ne vais pas faire le Bourdin à l'envers, parce que vous êtes bon en mathématiques, mais enfin, vous voyez bien qu'on peut faire des additions et des soustractions qui font qu'au total, on tient des objectifs globaux et qu'en même temps, il y a des domaines où on a réduit plus et d'autres où on a augmenté.
François Fillon va faire une déclaration solennelle à 11h à son siège de campagne sur ce sujet. On va l'accuser de récupération?
Bah, je sais pas, parce que Emmanuel Macron va le faire à midi, donc doit-il aussi être considéré comme en récupération? Bah, alors, parlons d'autre chose.
Et Marine Le Pen à 10h.
Non, mais alors, dans ce cas, demandons-leur de parler d'autre chose.
Enfin, c'est ridicule.
Enfin, il y a un événement quand même très grave qui vient de se produire. Il est normal que les principaux candidats s'expriment sur ces sujets. La seule chose que je dis et redis, c'est que la seule formation politique, le seul candidat qui pourra incarner et assumer un tournant sécuritaire, c'est la formation politique.
Mais François Fillon,
François Fillon comme candidat.
Simplement,
s'il est élu.
Il a dit hier que la campagne était terminée. C'est ce qu'il a dit hier pendant l'émission politique. Et il y a donc cette conférence de presse ou cette intervention qui va avoir lieu à 11h. C'est pas fini.
Non, mais
au contraire. Ça va être une vraie journée de campagne, monsieur Copé. Ça va être une vraie journée de campagne.
Oui, mais enfin, il a surtout indiqué, c'était tout à fait normal, qu'il annulait le déplacement qu'il avait prévu en montagne pour parler de questions environnementales qui sont très importantes. Enfin, je crois que chacun comprend que dans ces moments-là, l'actuel bouleverse naturellement les messages. Enfin, vous-même, dans les médias, n'êtes jamais avare de bouleversement d'ordre du jour quand l'actualité le commande.
Jean-François Copé, les événements d'hier doivent-ils induire une modification de la politique extérieure de la France, soit vers plus d'interventions, soit vers moins d'interventions? Est-ce que ça change quelque chose?
Enfin, ça change. Moi, dans ce que j'entends par tournant sécuritaire...
Non, mais ça, j'ai compris.
J'inclus naturellement la politique diplomatique de la France. Bon, il va de soi qu'il n'y a plus, en réalité, à dissocier politique intérieure et politique extérieure. Défense intérieure et défense extérieure. C'est d'un même concept dont
on doit s'impliquer le terrain.
Alors, ça veut dire quoi, impliquer davantage? Ça veut dire, en réalité, qu'au cas par cas, selon les besoins, il faut faire l'intervention au Mali. Initié par le président de la République, était une intervention absolument indispensable. Je l'ai soutenue. Je suis allé d'ailleurs sur place, au Mali, au Tchad, au Niger. J'ai naturellement vu que le rôle de l'armée française était remarquable pour endiguer autant que faire se peut la menace terroriste. En Syrie, comme en Irak, il faut être extrêmement attentif, réactif. Et sur ces sujets, je crois que ce qu'a rappelé François Fillon hier est très juste. Nous devons repenser nos partenariats stratégiques par rapport à un seul objectif qui est l'éradication du terrorisme. Je dis pas simplement l'éradication de Daesh, puisque chacun a bien compris ce qui est Daesh aujourd'hui était Al-Qaïda hier.
Ce que vous venez de dire, ça veut dire moins de lien avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, qu'on dit parfois, qu'ils financent le terrorisme.
Moi, je dirais les choses autrement. Je pense qu'à partir du moment où nous sommes en guerre contre les organisations terroristes, tous les États qui sont en situation de participer à ce même objectif sont nos alliés. Et qu'en réalité, le sujet pour nous, c'est une menace qui concerne aussi bien
la
partie sunnite que la partie chiite. Et tout le monde a bien compris que même si beaucoup des terroristes, pas tous, mais beaucoup des terroristes sont sunnites, bah, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, ils se retournent contre ceux qui sont soupçonnés de les avoir engendrés. On le voit bien avec l'Arabie Saoudite comme avec le Qatar. Donc moi, je pense que dans cette affaire-là, il faut être pragmatique. On parle beaucoup de se référer au général de Gaulle. Le général de Gaulle était très pragmatique. Eh bien, moi, je pense qu'il faut être pragmatique. Et de ce point de vue, là encore, la ligne diplomatique que propose François Fillon me paraît être la plus responsable dans ce contexte.
Merci Jean-François Copé d'avoir accepté l'invitation de France Info.
Et on se retrouve lundi, ce sera un autre jour. Merci.